Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Joueur, le podcast qui s'intéresse aux footballeurs, à l'aspect humain, social et sportif des footballeurs, les footballeurs qu'on adore, qu'on aime, qu'on admire. Toujours là, Kevin avec Anthony.
Salut Anto, Kevin.
Ça va ? La ça forme va, va. On est bien là, toujours.
Écoute, tout va très bien.
Troisième épisode, toujours là. On est chaud.
On a des sujets. On n'est pas en perte d'inspiration, donc c'est,
donc c'est ça une passe. Bonne chose. Ouais. Excellent. Et aujourd'hui, bah voilà, dans ce nouvel épisode du podcast, hein, on va s'intéresser à l'engagement. Alors l'engagement, qu'est-ce qu'on entend nous par engagement ? L'engagement du footballeur. Aujourd'hui, depuis d'ailleurs même finalement plusieurs décennies, les footballeurs sont des personnes finalement très influentes. Voilà, aujourd'hui, quand tu es footballeur, de par ce que tu fais sur le terrain, tu es admiré par des jeunes, par des moins jeunes. Et forcément, ce qui provoque une influence forte hein, pour certains, les footballeurs, et même pour nous, hein, les footballeurs sont des héros, des super-héros. Ils nous font vivre des émotions dingues et du coup rentrent dans notre cœur et font partie clairement de notre quotidien. Et aujourd'hui, c'est de se demander, voilà, lorsque tu es footballeur, avec l'influence que tu as, la notoriété que tu as, est-ce que tu dois aller sur un dépassement de fonction ? Donc, c'est-à-dire, finalement, t'engager sur des causes, des sujets de société. En tant que personne influente, si tu t'engages sur un sujet de société, bah, tu peux toujours finalement faire ta part du boulot, en tout cas faire bouger les choses. Et c'est de savoir ça. Est-ce que c'est une obligation finalement aujourd'hui quand tu es footballeur de t'engager sur les sujets de société, des sujets, des problèmes voilà, aujourd'hui on a toutes sortes de problèmes, hein, que ce soit lié à l'écologie, aux discriminations, des problèmes d'ordre politique. Voilà, donc aujourd'hui, nous, on veut s'intéresser à ça, regarder effectivement tout ce qui tient compte de ça, de l'engagement, et pour ça...
Bien sûr. Et si on s'intéresse à ça, c'est aussi qu'on sait qu'il y a des gens qui s'engagent, des joueurs qui se sont engagés, et il y en a d'autres qui, effectivement, font le choix
de ne pas s'engager,
voilà, de rester simplement en retrait, de garder leurs opinions pour eux.
C'est ça. Et nous, aujourd'hui, on voulait prendre un joueur en exemple, un joueur super inspirant, que sûrement beaucoup connaissent, hein, même si pour certains, ce n'est pas forcément votre génération. C'est Sócrates, le Brésilien.
Hein,
demi-frère d'un
joueur qu'on connaît très bien, d'ailleurs.
Une des légendes du PSG, le demi-frère de Rai. Et Sócrates, c'est le joueur brésilien.
Ouais. Alors, Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, voilà son nom complet.
Avec l'accent, parfait.
J'aurais pu même mettre l'accent brésilien, c'est pas tout à fait la même chose. Mais, joueur fantastique. Donc, il est né en 54 hein, au Brésil, à Belém. Et effectivement, pour le coup, Sócrates, on le connaît surtout donc, pour ses qualités de footballeur. Mais on le connaît aussi, et beaucoup de gens le connaissent, pour justement son engagement à lui. Parce qu'on va échanger là-dessus, hein,
ouais,
Kevin.
Bien sûr. Ouais.
Mais effectivement, lui, il s'est engagé très fortement politiquement.
Exactement. Ouais.
Bon, c'était une autre époque avec un contexte politique très compliqué au Brésil. Hein, mais,
oui, parce que le gros de sa carrière à Sócrates, c'est dans les années 80.
Exactement, c'est ça. Après, voilà, on peut commencer par Sócrates, le footballeur. Déjà, c'est un joueur exceptionnel.
Footballeur de génie. Ah, oui.
Footballeur exceptionnel. Ouais. Il a jamais gagné la Coupe du Monde. Hein. Ses chefs-d'œuvre, c'est 82, Coupe du Monde 82.
En termes de jeu avec le Brésil.
En termes de jeu avec le Brésil, donc milieu de terrain, Falcao, Zico.
Zico,
ouais.
Petit clin d'œil, allez voir Zico, parce que Zico, c'est un sacré joueur foot pour ceux qui ne connaissent pas.
Franchement, allez voir Brésil 82. Hein. Ouais. Franchement, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir aller sur Internet et taper sur YouTube n'importe quoi et on trouve des trucs. Aller voir Brésil 82, c'est incroyable.
C'était quelque chose, ouais.
C'est magnifique. Mmh. Enfin, une touche de balle. Sócrates, il mettait des talonnades dans tous les sens. Regardez son but contre l'URSS. Mmh. Il élimine deux joueurs, mais une frappe de 30 mètres en lucarne. Mmh. Enfin, voilà, c'est...
Pour beaucoup, le vrai jeu brésilien, il est incarné justement par Sócrates en tête.
Il y a beaucoup de spécialistes qui disent que justement, jusqu'à 82... le Brésil a encore gardé
82-86.
Voilà, c'est 82-86. Le Brésil, footballistiquement, c'était la fête.
Tout
pour l'attaque, tout pour le beau jeu. Ouais. Et effectivement, après ça, le Brésil, niveau football en tout cas,
un peu plus européanisé,
tactique un peu plus important, etc. D'ailleurs, Didier Roustan, dont on aime beaucoup les analyses, pose justement la question, Zico, Sócrates, etc., en 82, est-ce que c'était pas le plus beau milieu de terrain qui ait jamais existé.
C'est vrai.
Bon, voilà, le débat est ouvert, hein, bien entendu, il y en a eu d'autres. Mais c'est vrai qu'avoir joué, en tout cas, en 82, c'était assez incroyable. Donc, ils perdent contre une Italie de folie, hein, Paolo Rossi qui met un triplé contre le Brésil.
Ouais.
C'est comme ça qu'ils sortent. Mm. Donc, ils sont tombés sur un os. Et malheureusement, en 86, malheureusement et heureusement pour nous Français, ils tombent sur la France et la France gagne.
La France gagne.
On se rappelle tous de ce match-là.
Ouais.
Exactement.
Le pénalty de Lucien Hernandez.
Donc finalement, voilà, Socrates, joueur exceptionnel, mais qui n'a jamais... Et génération exceptionnelle pour le Brésil, et en tout cas, cette génération n'a pas gagné la Coupe du Monde.
Et puis c'est un joueur très élégant, Socrates.
Très, très élégant.
Il
est grand,
fin, très élégant. Touché de balle, un super touché de balle. Les talonnades qu'on lui connaît bien aussi.
Exactement. C'était son geste favori.
Exactement.
Il était comme un fou là-dessus. Donc voilà, c'était vraiment un joueur incroyable.
Et du coup, Socrates, lui, a évolué donc majoritairement au Brésil.
Voilà, au Brésil principalement. Il a fait un petit passage par l'Europe, au Fiorentina. On va surtout s'intéresser justement
à sa carrière au Brésil,
parce que c'est là qu'il a pris des engagements très très forts. Donc juste pour remettre dans le contexte, donc le Brésil, dans les années 80, le Brésil est en pleine dictature militaire depuis 64.
Exactement. Ouais.
Donc il y a un régime vraiment très très oppressif.
Totalitaire.
D'ailleurs, le régime en place tenait le football sous sa coupe. Il manipulait les compétitions à coup de construction de stades, accession artificielle à la première division. Enfin, il contrôlait vraiment tout, même dans le football. Ce n'était pas que dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, il contrôlait même les salaires. Et Socrates le dit d'ailleurs, 90% des joueurs à l'époque ont une condition de vie inhumaine. Et même 70% d'entre eux gagnent moins que le salaire minimal.
Donc pas facile d'être footballeur à cette époque-là.
Pas facile d'être footballeur au Brésil à cette époque-là. Et donc voilà, on est en pleine dictature. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 81, en fait, c'est un peu le hasard heureux. Donc le Corinthians, à ce moment-là, va pas bien. Ils sont même relégués en D2.
Donc c'est le club de Socrates.
Voilà.
Hein, Corinthians, il veut Corinthians.
Il arrive au Corinthians.
Un club de Sao Paulo.
C'est
si
ça, exactement.
Ouais.
Tout à fait. Et en fait, donc en 81, il change de direction et la présidence en fait élit Adilson Monteiro Alves.
Ouais, un mec qui se connaît pas forcément très bien en football.
Exactement, c'est
en plus,
un ancien leader universitaire.
Ouais, il s'y connaît pas très bien en football.
Qui d'ailleurs a fait un passage en prison puisque forcément à l'époque lui, Adilson prône la démocratie
et
il est contre le régime en place. Ouais. Et Adilson en fait propose aux joueurs d'instaurer en fait une démocratie participative au sein du club.
Ouais,
donc toute la gestion du club en fait va être mise entre les mains donc de tout le staff, tous les joueurs. Et ça peut être même les jardiniers, les masseurs.
Tout le monde fait partie vraiment du processus.
Une personne égale une voix.
Et décision.
Tout le monde vote en fait. Et vote tout et n'importe quoi. Ils votent la fin des primes par exemple. Et ils votent un intéressement par exemple sur la billetterie. La fin du mise au vert. Ils votent vraiment tout. De façon démocratique.
C'est super intéressant finalement. C'est que ils ont réussi finalement dans un pays... clairement, qui était son dictature, eux ont pris les choses en main.
Complètement.
En tout cas. Donc, finalement, aussi avec l'intervention de ce nouveau président. Et je pense qu'on va y venir justement avec aussi, après, derrière l'importance de Socrates, finalement.
Bien sûr,
qui va mener tout ça.
C'était un peu le leader, un petit peu de cette démocratie corinthienne, d'ailleurs, parce que ça a un nom. Le mouvement était très, 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 très fort au Brésil. Parce que forcément, le football avait une place importante dans la société brésilienne à l'époque. Et on voit que c'est en fait d'ailleurs ce qu'ils ont mis en place, donc la démocratie corinthienne, va très bien marcher puisque le Corinthians remonte en première division, ils sont deux fois champions, donc c'est finalement cette démocratie fonctionne très bien au sein du club et ils vont plus loin encore que juste la mise en place du vote au sein du club. Ils vont plus loin parce qu'ils ont des gestes forts contre le régime en place.
Finalement tout ce qu'ils ont mis en place c'est vraiment très fort parce que tu te rends compte que avec ce mode là déjà le club finalement était quelque part en autogestion.
Exact.
D'accord.
Ouais, c'est ça.
Comme tu as dit, décision, on prend le temps de débattre de tout ça. Puis ensuite, on vote. Et puis voilà, ce qui est la meilleure décision finalement pour le club, on la prend. Et tout ça, quand même, est mené finalement. Socrates se dégage quand même finalement en leader de tout
bien
ça.
Quoi.
Lui, il prend vraiment position. Parce qu'il faut expliquer quelque chose aussi, c'est que Socrates, C'est un garçon quand même, c'était un homme quand même déjà de base super érudit, quoi, parce que ça, ça on l'a pas dit, mais il a fait aussi des études de médecine, Socrate. Donc il était érudit, donc il était quand même sur tous les terrains, cet homme-là. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est pas un hasard s'il s'engage à ce moment-là, tu vois, à ce moment-là, parce que c'est un joueur qui jouait, mais avec une certaine vraiment idée du football.
Ouais, bien sûr.
C'est-à-dire, c'est vraiment, pour lui, finalement, le football n'était que le prolongement de lui-même. Mm-hmm. Donc, à aucun moment, il peut évoluer dans le football en se disant, ma situation, la situation du club est normale.
Ouais.
Faut que j'agisse. Parce que moi, le football, je veux que ça reflète, en tout cas, mon état d'esprit.
Ouais, tu vois. Complètement. Ouais. Donc,
c'est une raison pour laquelle il s'est
engagé. Il a vraiment pris des positions très fortes, lui, le club, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'était pas tout seul, bien sûr. Dans... Mais bon, c'était vraiment le leader de ce mouvement, en tout cas.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, en 82, peu de temps, justement, avant les élections du gouverneur de São Paulo, à laquelle, justement, le régime en place a été obligé de mettre ces élections en place, les joueurs rentre sur le terrain avec, dans le dos, floqué le mot démocratie.
Démocratie.
C'est vraiment, c'est vraiment très, très fort de leur part.
C'est l'engagement fort,
c'est
quand même.
C'est un engagement très, très fort. On
sous
parle
un régime politique,
sur
un régime de dictature.
Ouais, d'ailleurs, c'était le seul club au Brésil qui faisait ça. Hein. Ouais. Il n'y a aucun club qui a suivi ce mouvement. Et ça rend justement ces actions d'autant plus fortes. Et ça ne s'arrête pas là, puisque d'ailleurs... quelques temps après, c'était fin 83, si je ne me trompe pas, où le club dispute la finale du championnat pauliste.
Ouais.
Donc c'est contre São Paulo. Hein, et les joueurs, en fait, ils se présentent sur le terrain avec une banderole où il y a écrit « gagner ou perdre
ouais. »,
peu importe, mais toujours en démocratie. Et d'ailleurs, ils gagnent ce match 1-0 et avec un but de Socrates. Donc c'est
leader
pour...
en dehors et leader sur le terrain.
Voilà, exactement. Ah, ouais, ouais, oui, parce qu'on parle forcément de ces positions... on peut parler de position politique à ce stade-là, mais aussi, bien sûr, leader sur le terrain.
Ah, évidemment, s'il avait aussi ce poids, on va dire, en dehors du terrain, évidemment, c'est parce que sur le terrain aussi, c'était un joueur de génie, un magicien du football, Socrates. Finalement, ce qui le rendait ultra populaire.
Ouais,
et du coup, ses prises d'engagement ont été suivies et lui a permis, en tout cas, de mener quand même d'être quand même une des figures de ce mouvement-là. Quoi,
complètement, clairement. Et d'ailleurs, il va même encore plus loin parce qu'il met même en jeu, entre guillemets, sa carrière une année après, en 84. Socrates, il fait une promesse, en fait, devant 1,5 million de personnes. Hein, et il dit qu'en fait, il reste au Brésil si le Congrès rétablit une élection présidentielle libre.
Ouais, ouais.
Donc la manœuvre, elle échoue. Hein.
Donc c'est très fort, ça aussi,
c'est
hein,
très,
quand même,
très
de
fort,
dire ça devant... c'est pas n'importe quoi, quoi. C'est pas tout le monde qui serait là à dire... faire cette promesse-là, quand même.
Exactement. Et donc, la manœuvre, elle échoue. Et donc, le docteur, ou Dottol, comme on l'appelait...
Quand on l'appelle,
le surnom. C'était le docteur.
Dû à ses études
exactement.
De médecine. Ouais.
Donc là, il quitte carrément Corinthians et il part. Donc, c'est pour la Fiorentina. Donc, c'est sa petite parenthèse européenne.
Ouais.
C'est, voilà, c'est pas un choix sportif, encore une fois. C'est, c'est aussi
c'est un choix contestataire.
Exactement,
clairement.
Contestataire.
Ouais.
Je quitte le pays. Donc, c'est encore une fois super fort. Donc, voilà, vraiment, c'est un engagement très fort. Il n'a pas juste, placé ses positions politiques. Il y a eu des actions en fait qui ont suivi. Et donc bien sûr après on peut parler du joueur qui était incroyable.
Bah, c'est hein. ça, ouais, bien sûr.
C'est
après
un peu
voilà,
la combinaison des deux quoi.
Mais c'est vrai que là, effectivement, l'histoire de Socrates. Hein, et aussi voilà, faut vraiment comprendre toute la dimension. C'est que comme on l'a dit, un joueur magnifique. Il s'engage du coup dans son pays qui est en dictature via le football. Le football lui permet justement d'être ce vecteur-là où il peut faire des actions déjà juste en commençant par son club, à changer déjà comment les choses marchent dans son club en étant en haute gestion, en mettant vraiment étant la figure qui met tout ça en place finalement quand même. Ça peut justement voilà aujourd'hui nous poser la question de se dire bah voilà Socrates lui a fait ça à son époque. Parce qu'il devait le faire, ça faisait partie en tout cas de, finalement de sa personnalité, il ne pouvait pas rester inactif, d'accord ? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que quand tu es footballeur, est-ce que ce qu'a fait Socrates finalement, est-ce que c'est une obligation ? Est-ce que pour toi quand tu es footballeur, quand tu commences, voilà, tu es un jeune footballeur, tu arrives dans le milieu pro... tes performances sur le terrain, donc forcément tu es admiré. Et
on va forcément te demander de prendre des positions. C'est souvent ce qui arrive, hein, d'ailleurs, quand on voit qu'il y a des polémiques. On en veut presque aux joueurs de ne pas donner leur opinion.
C'est vrai qu'il y a eu des reproches.
Il y a eu des reproches
fois,
parfois de voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Et parfois, les joueurs.
Et de ne pas être assez tranché, on n'aime pas forcément ça.
On n'aime pas forcément ça. Ça peut être mal vu, du moins en France, hein, puisque nous, forcément, c'est ça qui nous intéresse.
Alors qu'en fait, en vrai, aussi, moi, je me mets à la place aussi d'un joueur. Hein. En vrai, si je n'ai pas envie de prendre position, je ne prends pas position, en fait.
Oui, parce que t'as le droit. Toi, on te demande tes footballeurs, on te demande de performer sur le terrain. Si t'as pas envie de donner tes positions ou parler de tes opinions, en tout cas, puisque ça reste de la sphère privée. Hein.
Exactement.
T'es pas forcé de le faire, forcément. Ouais.
C'est ça. Donc, en vrai, aujourd'hui, tu peux dire effectivement ça, que toi, t'as pas envie de t'engager. Mais, d'un autre côté, franchement...
Parce que t'es pas obligé de le faire. Parce que t'es aussi un exemple, en fait.
Est-ce que c'est pas un devoir, tu vois ? Au-delà d'obligation, j'irais devoir, comme on parle de devoir, nos devoirs civiques qu'on a, finalement, c'est te dire, c'est pas une obligation, mais finalement, c'est un devoir quand t'es influent. Tu dois quand même peut-être aussi montrer que tu as un engagement, en tout cas, pas sur tout évidemment, mais sur des causes qui tiennent à cœur. C'est Memphis Depay qui disait ça justement dans plusieurs interviews, il l'a dit, le joueur de Lyon, l'attaquant de Lyon, Memphis, qui évidemment lui se considère pas comme un exemple, c'est ce qu'il disait, mais qui sait qu'effectivement il est admiré par pas mal de personnes qui forcément s'identifient à lui.
Ils le savent tous, hein. À ce niveau-là, en tout cas.
Ouais, voilà. Et que du coup, il essaye en tout cas juste lui d'être la meilleure version de lui-même.
Ouais.
C'est tout ce qu'il essaie de faire. Mais évidemment, il n'est pas parfait. Et je pense qu'évidemment, pour n'importe quel joueur, c'est ça en fait. C'est juste d'essayer d'être déjà la meilleure version de lui-même. Et après, oui, si tu as envie de t'engager, libre à toi de le faire, finalement.
Et pour revenir sur Socrates, encore une fois, je pense qu'on ne se rend pas compte de la puissance que ça a eu. Parce qu'on parle, encore une fois, on parle d'une dictature,
un régime militaire en place.
L'importance que ça a eu. Alors, bien sûr, c'était un effet de groupe, parce que Socrates n'était pas tout seul.
Ouais.
Mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'on parle des Corinthians, mais quand ils ont mis en place cette démocratie corinthienne, ça a fonctionné même sur le plan sportif. Donc, en fait, si tu veux, les revendications politiques étaient attachées à cette équipe.
Ça a eu un impact sur la société.
Ouais, donc, la démocratie gagnait.
Exactement.
En 82 et 83, Corinthians avait déjà mis en place cette démocratie cette démocratie.
Le symbole est très fort quand même.
Le symbole est très fort, ils sont champions deux fois. Pareil, quand ils brandissent la banderole, qu'on gagne ou qu'on perde, la démocratie, le plus important, c'est la démocratie. Ils gagnent ce match, donc, en quelque sorte. Et puis, c'est un match qui est retransmis dans tout le pays,
sur toutes
les chaînes de télé.
Enfin, t'imagines le geste fort en termes de communication.
Déjà, ils mettent la banderole et en plus, ils gagnent ce match. Et c'est Socrates qui marque.
La démocratie gagne,
encore une fois.
Exactement.
Donc, c'est tout ça aussi qui rend l'histoire encore un peu plus forte, encore un peu plus belle.
Donc, c'est vrai que c'est une vraie source d'inspiration. Tu peux dire que même si, en tant que footballeur, t'engager, c'est peut-être... Mais en fait, ce qu'a fait Socrates est super inspirant parce que tu te rends compte que tout ça est allé bien au-delà du football.
Complètement, en fait,
ce geste-là. Tu vois, du coup, c'est un truc qui
vient. Ça a initié un petit peu le changement dans le pays. On n'ira pas jusqu'à dire que c'est grâce à Socrates.
Mais ça a eu un impact.
Voilà, bien sûr, la dictature a cessé depuis et c'est une très bonne chose. Mais forcément, ça a eu un impact sur le pays, bien entendu.
Imagine tes supporters des Corinthians, tu vois ça, parce qu'avant tout, avant d'être un supporter, t'as un Brésilien qui a une situation aussi difficile due à la dictature. Et t'as ton équipe qui fait quand même ce geste fort. Donc, même toi, ça te redonne aussi de l'espoir et te dire qu'un changement est possible.
C'est très fort. C'est un geste très, très fort. Mais d'ailleurs, après ces années football, Socrates a refusé de s'impliquer plus en politique.
Parce qu'en vrai, on lui a fait des propositions.
Ouais, on lui a fait des propositions d'aller plus loin, entre guillemets, et de s'investir vraiment durablement dans la vie politique brésilienne. Et il le dit lui-même, parce qu'il était à un moment de sa carrière et de la démocratie corinthienne, il était assez proche de Lula da Silva.
Oui, qui sera le futur président du Brésil.
Et en fait, il y avait une liste de ministrables qui avait circulé à l'époque.
Et lui, il était dedans, en fait.
Il a pris les devants et il a dit non, je ne veux pas faire partie de cette liste. Il ne croit pas à la politique
institutionnelle. Ce qui tient plus de l'institution, ça ne lui correspond pas forcément. Socrates est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais peut-être associatif, tu vois.
Ouais.
cette chose où tu es beaucoup plus local finalement.
Exactement.
Exactement. C'est et ça puis, qui lui correspondait
et
plus.
Et puis voilà, il a, donc, tout ce qu'il a fait, prise de position, etc. Donc il y a été à fond. Mais il ne croit même pas au football de son pays, au Socrates, en tout cas en termes d'intégrité, parce qu'il le dit encore une fois lui-même, hein, et on le cite, le congrès brésilien et qui avait enquêté sur le football au Brésil a déjà conclu que ce milieu était totalement pourri. Donc c'est lui qui le dit. Hein.
Bien sûr.
Et les Corinthians, depuis qu'il est parti et qu'il a arrêté le football, il n'a plus de contact, et il le dit lui encore une fois.
Ouais, ça c'est. Je
ne suis plus leur genre, je crois. Donc tu vois, il lance aussi un pic.
Si vraiment ça s'est pas super bien terminé finalement, les relations avec le club hein, finalement.
Non, bien sûr, parce que alors après, je suis pas un expert encore une fois sur le Corinthians, mais je crois que quand il part, il y a un changement de présidence et donc forcément après les courants de pensée changent un petit peu.
Ouais, c'est ça aussi. C'est plus l'époque change et du coup on n'est plus dans la même lignée forcément. Quand les hommes changent, des fois apparemment l'esprit est plus forcément le même.
Mais en tout cas, c'est très très fort. Et encore une fois, je finis encore là-dessus parce qu'on se rend pas compte, je pense, encore une fois. Et il le dit, encore une fois, c'est Socrates qui le dit. Quand ils ont mis en place cette démocratie corinthienne, au départ, l'idée c'était de changer leurs conditions de travail.
C'était vraiment ça, faut insister là-dessus.
En introduction, ils étaient très mal payés.
C'était parti de ça vraiment à la base.
Ouais, bien sûr, ils étaient en dessous le salaire minimum. Donc voilà, ils avaient vraiment des conditions assez déplorables. Puis il le dit encore une fois, puis la politique sportive du pays, et enfin, il voulait changer la politique tout court.
Exactement.
Donc voilà, il avait vraiment une prise de position très forte ensuite sur la deuxième partie de sa carrière de footballeur en tout cas.
Donc Socrates, le joueur, le Brésilien, je vous dis, faut vraiment ceux qui le connaissent pas. Hein. Socrates, faut vraiment dire que c'est un des joueurs brésiliens peut-être les plus populaires, les plus talentueux qui existaient.
Exactement.
Vraiment. Et forcément, sa popularité tient aussi du fait de son engagement.
Ouais. D'ailleurs, il y a un livre très bien, hein, si vous voulez aller le lire. Ça s'appelle Docteur Socrates.
Ouais.
Le préface est de Rai.
De son demi-frère.
Et c'est Andrew Downey qui l'a écrit.
D'accord,
il est très intéressant. Et il va justement plus en profondeur, pas que sur la vie de footballeur, mais surtout sur ses positions politiques et sur toute la démocratie corinthienne. Et si vous voulez aller plus loin dans ce sujet-là, surtout n'hésitez pas. C'est vraiment très, très, très intéressant. On en apprend beaucoup sur la vie de Socrates et sur ce mouvement qui est inédit encore jusqu'à aujourd'hui hein, parce que c'est quand même un mouvement très 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 fort.
Super. Oui, Socrates, voilà, c'est une source d'inspiration justement parce que comme l'a dit Anthony, ça partait vraiment juste d'une volonté à la base avec son club des Corinthians de vouloir juste changer les conditions de travail. Au fur et à mesure, finalement, c'est allé plus loin parce qu'ils ont vu aussi l'impact qu'ils pouvaient avoir. Ils sont vraiment allés au bout des choses. Donc, effectivement, pour ça, Socrates, pour son jeu, évidemment, que c'est un footballeur magnifique avec un talent incroyable, mais aussi avec un engagement super fort et qui a servi à son pays et a inspiré des millions de personnes. Socrates, du coup, nous a quitté.
Son âme, ouais.
Nous a quitté en 2011. Des suites voilà de problèmes liés aussi du coup à une addiction je crois aussi à l'alcool il a eu des problèmes intestinaux
voilà, encore une fois c'était pas un mec parfait hein. Il avait ses défauts
comme tout le monde, bien sûr. Mais il nous a quitté il y a bientôt 10 ans maintenant et forcément ça a ému tout un pays qui part parce que c'est une vraie figure Socrates au même titre par exemple que si on sort d'autres sports par exemple que Ayrton Senna aussi en Formule 1 le pilote de Formule 1 bon là on est du coup hors foot et du coup intéressez-vous aussi à Ayrton Senna qui est pour le coup lui qui est mort jeune à 34 ans et qui aussi a eu un impact aussi certaine manière aussi sur son pays donc voilà mais il y en a eu un d'autres hein, des footballeurs on a
il y en a
pas
eu
mal,
plein
hein.
d'autres
bah, pas
alors,
mal, hein.
On peut en citer quelques-uns très rapidement notamment il y a plus longtemps que Socrates, mais il y avait Sindelar, c'était un Autrichien qui refusait de porter le maillot nazi quand Hitler avait envahi l'Autriche.
Ouais, ouais.
Donc voilà, une prise de position encore très,
très
forte.
Très forte, ouais, bien sûr.
Il y a eu Puskás aussi, qui avait fui l'Hongrie, qui était à l'époque sous le joug communiste, pour aider les réfugiés politiques. Puskás jouait à l'époque au Real Madrid.
Voilà,
il y en a eu plein d'autres.
On parle pas de petits joueurs en plus.
On parle de légendes. Ouais. Pareil, Maradona, Romario, ils ont pris des positions très fortes contre la FIFA.
Ouais. Donc du coup, on se rend compte que quand même, t'as pas mal de joueurs finalement qui se sont engagés. Donc est-ce que finalement,
la vraie question, allez.
Non, mais est-ce que finalement, regarde, si Même si à la base tu dis que moi je veux juste faire du foot, j'ai pas envie de m'impliquer, est-ce que tôt ou tard dans tous les cas ça te rattrape? Et forcément tu peux pas rester indifférent et t'es obligé de avoir des prises de parole et te dire tu t'engages vraiment. Et peu importe, parce que là on parle beaucoup de politique, mais ça peut être sur d'autres sujets. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'écologie, racisme, égalité des sexes, enfin, voilà. Exactement. Est-ce que finalement, d'un moment, et même en vrai, en tant qu'être humain, c'est plus fort que toi. Tu t'engages et tu parles. Même si c'est dur aussi de s'engager publiquement, parce que tout est scruté, analysé. T'es footballeur, t'es une personnalité publique, c'est pas évident.
Complètement. Moi, non, mais c'est dur. Hein. C'est une question très dure, hein. Très difficile à y répondre. On aurait tendance à dire que oui. Encore une fois, pour les footballeurs, hein, je parle à un niveau plus ou moins élevé.
Ouais.
Mais ça reste aussi des exemples. Pour une certaine partie de la société, que ce soit jeunes ou les gens qui...
Mais toi, tu conseillerais à, je sais pas, tu vois, bah justement, t'as un jeune footballeur, il est là, il a 16-18 ans, c'est peut-être le futur Cristiano Ronaldo ou le futur, je sais pas moi, Zinedine Zidane, tu vois.
Ouais.
Est-ce que tu dirais que dans tous les cas, il faut que tu développes ça, que tu développes aussi un aspect qui est au-delà du football, hein, tout simplement ton aspect d'homme. Hein, le football t'apporte en tant qu'homme, mais du coup, tu vas... Dans tous les cas, il faudra que tu t'impliques et comme tu vas être une personnalité influente, de t'impliquer sur les sujets de société. Toi, tu conseillerais genre là aujourd'hui à un jeune footballeur de prendre ça en compte?
Si on lui pose la question, oui. Après, je le conseillerais en tout cas de pas s'intéresser qu'au football. Le football, ça véhicule énormément de choses. Et aujourd'hui, il y a presque des conflits politiques à cause du foot.
Ouais.
Donc, de forcément s'intéresser un peu à ce qui se passe autour de lui pour que si on lui pose une question, il puisse... y répondre, en tout cas avoir toutes les armes pour y répondre et avoir au moins une réflexion. Après, on peut pas s'intéresser à tous les conflits, tu vois. Moi, tu peux me demander aujourd'hui de parler d'un conflit dans lequel j'ai pas forcément d'informations ou je suis pas forcément renseigné. Je vais pas prendre de position puisque je connais pas.
Donc, faut être
je
aussi précautionneux aussi quand
faut être
tu
aussi
fais
très précautionneux de pas dire ce qu'on pense comme ça, tu vois, tout va, et de prendre un peu de recul sur,
bien sûr.
Sur les choses. Ouais.
Mais on s'en compte que même, tu vois, parce qu'on a parlé, de légendes du football, mais même à un niveau même plus local, hein, sur le foot amateur, toujours, tu s'en compte aussi que beaucoup de footeux aussi, parce que même quand tu joues à un niveau amateur aussi, faut pas négliger aussi le fait que tu as aussi une influence aussi, clairement.
Complètement.
Et du coup, tu vois aussi pas mal de joueurs, tu as des joueurs, des fois, même à un niveau amateur, qui vivent apparemment du football, mais d'autres qui ont besoin de travailler aussi à côté, mais qui sont aussi en tant que footballeurs ultra engagés aussi sur différentes causes et surtout à un niveau local, au niveau de la ville où ils jouent. Et donc ça aussi, ça peut être c'est super intéressant aussi à développer.
Après, tout dépend encore une fois de... Parce que tu vois, il y a tellement de conflits, il y a tellement de polémiques autour de la politique, il y a tellement de choses. Je pense pas qu'un footballeur puisse prendre des positions sur tout.
Ouais, d'accord.
Après, je pense à lui de sentir s'il y a quelque chose qui lui tient à cœur, de pas justement se fermer et se dire non, moi on me demande de jouer au foot, on me demande pas mon avis.
Ouais.
Après, libre à chacun, encore une fois.
Alors tu dirais en fait finalement qu'il faut être au moins dans la petite action en fait qui peut faire la différence, ce serait déjà bien, au-delà d'être un porte-parole, qui est peut-être pas forcément ton rôle d'être un porte-parole ou quoi que ce soit.
Sur des sujets qui, en tout cas, qui passionnent ou qui intéressent.
Parce que par moment, on peut dire aussi que certaines personnes aussi en attendent peut-être des fois un peu trop justement
exactement,
du footballeur aussi. Hein.
Exactement.
Attendent un peu trop aussi. Hein.
Ouais. Je suis d'accord. Footballeur, ça reste un homme. Le football, c'est son métier, pour beaucoup en tout cas. Et libre à lui en tout cas de prendre des positions ou pas. On ne peut pas en vouloir à un joueur. Enfin, moi, j'en voudrais jamais à un joueur qui prend pas des positions parce qu'il juge qu'il a pas envie de s'exprimer sur le sujet.
Je pense aussi, tu fais ce que tu veux aussi.
Ça reste, ça reste un homme avec ses convictions, ses opinions, et il peut très bien dire j'ai pas envie d'y répondre. Après, s'il a un sujet qui lui tient à cœur, tant mieux, encore une fois, s'il peut faire avancer les choses. Parce que c'est ça qui est important aussi, c'est pour ça qu'on demande beaucoup aux footballeurs de s'engager, c'est parce qu'ils peuvent faire bouger les choses. Ils ont une voix, ils ont des gens qui les suivent, et je pense qu'on leur demande de prendre des positions pour faire bouger les choses aussi, tu vois.
En tout cas, pour n'importe quel type de footballeur, surtout si t'es un jeune footballeur qui est promis un avenir dans le football, En fait, on peut résumer comme ça, finalement. Si tu as envie de t'engager, engage-toi.
Engage-toi.
Parce que ça peut être super intéressant.
Voilà, et ça aura forcément un poids. Et...
Toi, en tant qu'homme, ça va développer. Puis même, ça va peut-être aussi avoir peut-être un impact sur, ouais, sur quelques personnes.
Après, il y a des sujets sur lesquels, pour moi, on devrait tous agir. Tu vois, le racisme, personne n'est pour le racisme.
Ouais.
Donc oui, c'est sûr qu'il faut que tous les joueurs s'engagent là-dessus. Y a d'autres sujets, bien entendu, l'égalité homme-femme. Il y a plein de sujets sur lesquels il n'y a même pas de discussion à avoir.
Et qui sont liés, du coup, directement au foot, en
bien
plus.
Bien sûr, complètement. Alors, on est football, égalité homme-femme, il y a du foot féminin, il y a du foot masculin.
Exactement.
Donc, pour moi, sur des sujets comme ça, oui, on est presque obligé de s'engager. Tu vois.
Ouais, ça paraît une évidence. Mais encore une fois, voilà, faut surtout pas avoir, moi, je pense, de pression par rapport à ça. Faut vraiment le faire aussi comme on le sent, être précautionneux, parce que des fois, forcément, on s'y connaît pas, on n'est pas omniscient, donc on connaît pas tout. Mais en tout cas, on pourrait résumer finalement en disant que ça peut être intéressant. Ça peut être toujours intéressant pour un footballeur de s'engager dans diverses causes, peu importe la cause, une cause qui le passionne, une cause qui le touche directement. Ça peut avoir un impact, ça peut être intéressant, mais il ne faut surtout pas voir ça comme une obligation, mais justement comme j'ai envie de le faire, quoi, plutôt. En fait, voilà.
Ouais, je pense
on va résumer comme ça, je pense.
On peut dire ça, ouais.
C'est une bonne conclusion.
C'est une bonne conclusion.
C'est pas mal, la petite conclusion.
Donc, non, voilà. Mais c'est un sujet délicat. Ouais, l'engagement, voilà. Encore une fois.
Ouais.
Faut pas tout mélanger, tu vois. Le footballeur, c'est son métier.
Avant tout, c'est son métier. Avant tout, on veut que ce soit déjà des super footballeurs.
C'est ça, voilà.
Et après effectivement, ce qu'il peut avoir. Voilà.
Ça force un petit peu à s'exprimer sur certains sujets.
C'est exactement ça.
Donc voilà. Mais après, c'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas hésité à s'engager.
Et c'est ça.
Et c'est aussi pour ça que c'est plus que des footballeurs aujourd'hui, tu vois.
Et c'est des grandes sources d'inspiration.
Complètement.
Génial.
Comme d'hab.
Écoute, Anthony, je crois que on a fait un peu le tour, là, tranquille. Et on a vu des beaux exemples. Hein, donc Socrates, il y en a eu d'autres à travers l'histoire. Anthony les a cités un petit peu, comme Puskas, des joueurs qui ont bougé.
Des joueurs plus actuels. Hein.
Donc voilà, c'est super inspirant de connaître ces histoires-là. On espère que justement ça a pu inspirer hein, pour certains qui sont footballeurs ou qui se destinent aussi à une carrière aussi de footballeur et ces exemples vraiment faut vraiment les valoriser parce que c'est des exemples qui ont fait du bien à la société et à beaucoup de personnes. Donc voilà. Écoute Anto,
yes,
c'était très cool encore une fois,
comme d'hab,
beau sujet, on revient le mois prochain avec un...
Laisse-moi partir en vacances.
t'as besoin de petites vacances, mais il y a un petit sujet aussi pour le mois prochain qui va être aussi très...
Ah ouais, c'est moi, j'avais oublié, t'aimes trop teaser, toi.
Ah ouais, je suis obligé de teaser. Je suis obligé de faire le petit teasing. Donc voilà, merci Anto, encore une fois, très
merci
cool.
Merci à toi, Kevin.
Merci beaucoup. Écoutez, continuez à regarder du foot, continuez à jouer au foot si vous le pouvez, continuez à aimer le joueur, on est là, on est ensemble. À très vite, à bientôt.